secondes avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Émission d'En Jase, Boulevard 101, ton émission du midi de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV. Il est présentement midi 39. Hey, Pascal, ça bouge normalement en studio. Là. On a de la visite, ça n'a pas d'allure.
On a de la visite politique. Es-tu surpris?
Parce
que
non,
même
pas surpris.
Si on vient d'annoncer le nouvel album de Marc Dupré, nous autres, on a déjà fouetté au niveau politique.
Ah, ouais. On n'écoutera pas les nouvelles chansons de Marc Dupré.
Je faisais juste un nommé comme ça de façon très rapide là, pour
triste.
Les grands fans.
Non, on a de la belle visite ici en studio. Premièrement, Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. Éric, comment vas-tu?
Très bien.
Maïté Blanchette-Vézina, avec qui on a eu la chance de parler au téléphone plusieurs fois, première fois en personne.
Bonjour.
Très heureux de te rencontrer. Ça va bien?
Ça va très bien. Merci de l'invitation.
Ben oui. Là, ma première question à poser, êtes-vous rendu dans le même parti politique?
Non.
Pas encore? Mais vous avez des idées communes?
Ben moi, je l'ai dit que je travaillais de manière transpartisane avec tous ceux qui souhaitent mettre de l'avant une vision porteuse pour les régions. Puis Éric... cette envie-là. Donc,
ouais, voilà. On a des idées communes sur les régions, puis on a surtout, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui on est ici, on a des visées communes au niveau des réformes démocratiques. Mm-hmm. C'était ça aujourd'hui qui était l'objet de notre conférence de presse un peu plus tôt aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Puis Jean-François a dit « pas encore dans le même parti ». La réponse était, je pense que je l'ai manqué.
Pas encore dans le même parti?
Ben en fait, moi, je travaille de manière transpartisane et c'est ce que j'ai dit à mes citoyens. Je continue de travailler comme ça.
Alors, point de presse ce matin?
Oui.
Commun?
Oui, exactement, exact. Sur le vote proportionnel. Et avant de commencer à vous questionner là-dessus, je vais vous faire entendre François Legault le 2 octobre 2018.
L'engagement d'un scrutin proportionnel avec les résultats que vous avez eus, 37 % d'appui. Est-ce que vous allez respecter cet engagement-là?
Oui, on a pris l'engagement avec trois autres partis, si j'inclus le Parti vert, de déposer un projet dans la première année. Donc, ça sera fait.
Alors, M. Duhaime, si je comprends bien, ça s'est pas fait, hein, si on en parle aujourd'hui?
En fait, il a déposé un projet de loi qu'il n'a jamais adopté. Fait qu'il l'a laissé mourir au feuilleton en langage parlementaire. Mmh. Fait qu'il a... C'est ça. Le parti, là, vous comprenez, le parti de M. Legault avait promis une réforme du mode de scrutin. Il disait que c'était la dernière fois en 2018 qu'on votait pour le mode de scrutin traditionnel, qu'il allait y avoir une forme de proportionnel régional. Et malheureusement, il a abandonné cet engagement-là parce qu'il disait que les gens ne se battaient pas dans les autobus pour une réforme du mode de scrutin. C'était ça son argument principal.
Et là, pour que les gens comprennent bien, s'il y avait eu une élection proportionnelle en 2022, la CAQ, 90 députés, après l'élection qu'il y en avait 90, parce qu'il y en a moins, la preuve, on a Maïté Blanchette-Vézina avec nous, donc aurait eu 75 députés. Oui. Le Parti libéral du Québec, alors c'est moins 15. Le Parti libéral du Québec à 21 aurait eu 16, donc c'est moins 5. Les trois autres partis auraient gagné au change. Québec solidaire, qui en avait 11, en aurait eu 14, donc plus 3. Le Parti québécois, qui en avait 7, qui en avait 3, en aurait eu 7 de plus pour 10. Et le Parti conservateur du Québec, qui a 0 député malgré 12,91% des votes, aurait eu 10 députés.
Ouais. C'est la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec. Jamais un parti politique a eu autant de votes avec aucun député. On a eu 530 000 votes, plus que 530 000. Puis ça veut dire qu'on représente plus qu'un Québécois sur 8, puis on a 0 député sur 125. Donc, suite à ce résultat-là, nos membres se sont réunis en congrès en novembre 2023, puis on a adopté le projet de loi de la CAQ. Fait que notre programme, nous autres, c'est le projet de loi de la CAQ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai été avec Maïté Blanchette-Vézina pour parler de ça, parce que c'est les membres qui ont décidé qu'on allait de l'avant. Et s'il y avait une élection aujourd'hui, parce qu'il y a le sondage de ce matin dans le Journal de Québec, là, la CAQ est à 17 % puis il y aurait entre 0 et 1 député.
Ouais.
OK? Fait que ceux qui vont goûter la prochaine fois, c'est pas nous autres, on aurait 9-10 députés. On aurait à peu près le même nombre que ce que un scrutin proportionnel nous donnerait. La prochaine victime, ça sera pas nous, ça va être la CAQ. Fait que là, ils ont un intérêt cette fois-ci à passer de la parole aux actes et à adopter leur vieux projet de loi.
Est-ce que vous sentez que vous êtes en cohésion, chacun des partis, autre que la CAQ, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'ils vont avoir plutôt avoir une image de se faire prendre en grippe là-dessus pour les prochaines élections. Mais est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous jasez de ça à porte close? Parce que là, clairement, bon, PSPP et PP n'est pas ici avec vous aujourd'hui dans la tournée, mais comment ça se passe à porte close?
En fait, on était ce matin, c'est à la demande de Québec solidaire qu'on a été, on a fait un point de presse commun. Alors, QS est formellement pour. Ils ont déposé leur projet de loi qu'ils avaient déposé à l'ancienne session. Et le Parti québécois mentionne qu'il est toujours d'accord avec cette réforme, l'a même réitéré à M. Charbonneau qui était avec nous de Mouvement Démocratie Nouvelle. Alors, Est-ce que le Parti libéral a intérêt à voter pour une telle réforme du mode de scrutin? Bon, je pense qu'historiquement, ils ont refusé de le faire. Mais là, il y a une occasion, comme Éric Duhem, M. Duhem le mentionnait, de faire différent et de faire adopter cette loi-là d'ici la prochaine élection. Et ça pourrait les avantager, peut-être pas pour cette élection-ci, mais pour la prochaine au moins.
C'est vrai que le timing est probablement le meilleur qu'il n'a jamais été, parce que personne n'a de garantie de rien. Parce que c'est sûr que moi, je vous écoute parler, puis moi, je suis de la politique depuis que j'ai 15-16 ans. Là. Ça revient comme les saisons, là, cette affaire-là. Là.
Ouais.
Je veux dire, ça fait augmenter le cynisme, parce qu'à chaque fois qu'un parti n'est pas assuré de gagner selon les règles actuelles, ou perd, ou n'a pas assez de députés à son goût, ben là, il est pour la réforme du mode de scrutin. Quand on est au gouvernement, puis qu'on a gagné avec les règles actuelles, tout à coup, c'est plus la priorité du moment. Quand vous avez décidé d'embarquer là, dans ce dossier-là, puis de faire cette sortie-là, est-ce que vous vous êtes posé la question, parce qu'il y a beaucoup de cynisme, de dire hey, « on va-tu vraiment revenir encore avec ça alors que finalement, ça fait toujours patate? »
C'est certain que c'est démotivant pour les citoyens. Le nombre de fois où des gens, soit du Parti conservateur, des gens qui ont voté pour d'autres partis que celui qui gagne historiquement, là, moi, je suis du comté historique du PQ, je n'étais pas du PQ. Mais je l'entendais, qu'est-ce que ça me donnerait? De toute façon, ma voix est comme perdue. Ça donne rien de voter pour Paul PQ. T'sais. Dans mon comté, c'était ça, mais on a réussi à rentrer pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que ça alimente cette espèce de perception-là que si je vote pas pour celui qui est peut-être en avance dans le sondage local, ben ça donne rien que j'aille voter. Puis ça, c'est triste, je trouve.
Oui, puis Antonine, ta question est d'autant plus pertinente que aujourd'hui, le Parti québécois n'est pas venu à la conférence de presse. C'est quand même bizarre que le Parti québécois, qui a toujours été en faveur d'une réforme du mode de scrutin, d'ailleurs Jean-Pierre Charbonneau, qui nous accompagnait, est l'ancien président de l'Assemblée nationale, ministre péquiste, notamment de la réforme démocratique, que le Parti québécois décide de ne pas venir. Puis là, quand on regarde le sondage ce matin, je vais faire mon cynique deux secondes, là, 32% puis tu gagnes majoritaire. Est-ce que finalement, ils trouvent que le système n'est pas si pire?
C'est la question
que je me suis posée ce matin. Je me suis demandé s'ils n'étaient pas là parce qu'ils ont calculé que finalement, si on gagne à 32%, finalement, le mode de... Puis on gagne 100% du pouvoir, là, comprenez. Il serait majoritaire. Il y aurait peut-être 80 députés. Il y aurait les deux tiers de la Chambre qui seraient péquistes avec 32% des votes. C'est ça la distorsion démocratique à laquelle on va assister. Là.
Est-ce qu'on devrait avoir une agence indépendante qui planche sur le dossier puis qui dit aux élus, voici ce qu'on devrait faire pour que la population soit mieux représentée? Parce que, vous le dites très bien, M. Duhem, peu importe qui est au pouvoir, il va s'accrocher au mode de scrutin traditionnel.
Bien, je pense pas qu'il faut adopter un mode de scrutin puis une réforme démocratique de façon antidémocratique. C'est-à-dire que je veux dire, on vit dans un système parlementaire britannique qui a des défauts, là, puis on en parle aujourd'hui, mais il y a aussi des qualités quand même. Là. Il assure une certaine stabilité. On a quand même la chance de vivre dans une des plus vieilles démocraties d'Occident. Il faut quand même le reconnaître. Cela étant dit, il est perfectible, notre moyen. Je pense que Maïté, ce matin, a mis l'emphase sur d'autres régimes ailleurs dans le monde qui ont bonifié leur mode de scrutin, comme exemple.
Exact. Nouvelle-Zélande, ça a amené vraiment un travail de collaboration, là, c'est ce que je nommais. Là je suis indépendante, je suis là aujourd'hui pour en parler, mais ce travail-là avec d'autres partis qu'uniquement celui avec lequel on a été élu, ça fait... Je pense que les citoyens aiment ça aussi, qu'on travaille en collaboration, et c'est ça que ça a amené en Nouvelle-Zélande comme la réforme, ce travail de collégialité-là que les Québécois, je pense, apprécie aussi. Est-ce que d'avoir une agence qui travaille là-dessus de manière indépendante, ce serait la bonne solution? Après ça, il faut quand même que le processus démocratique se fasse. Ça fait que ça prend une volonté du gouvernement en place de faire avancer ce dossier-là. Et je le répète, je pense que s'il y a un moment dans l'histoire où le gouvernement en place a tout intérêt à changer le mode de scrutin,
ben oui,
c'est maintenant. Donc, moi, j'ai un peu lancé l'appel à des collègues.
D'où la stratégie de sortir aujourd'hui.
Exact.
Ben oui, parce que pensez-y, là, la CAQ, là, on assisterait vraiment à quelque chose. Puis probablement que la prochaine élection risque d'être très historique pour le Québec. Là. On passerait d'un gouvernement qui a élu 90 députés à zéro. C'est jamais, jamais, jamais vu dans l'histoire du Québec un retour. Puis il y a des signes avant-coureurs. Là. Moi, j'étais dans une élection dans Arthabasca il n'y a pas longtemps. Là. La CAQ est passée de 52 % à 7 % d'une shot. Là. Donc, il y a des signes avant-coureurs qu'on risque d'assister à ça. Fait que s'il y a un parti qui va voir la lumière au bout dans le dossier-là, je pense que c'est la CAQ à l'heure actuelle.
Est-ce que vous pensez que vous le faites quand même pour vous, les partis? Parce que d'abord et avant tout, ce serait pour les électeurs. La réponse politique est facile. C'est pour les électeurs, c'est pour une meilleure représentativité, puis façon aussi de sonder les gens. Mais est-ce que vous pensez que vous le faites de façon biaisée, consciente ou inconsciemment, plus pour les partis en ce moment?
Ben moi, je suis sans parti. Donc, je pense que je peux vous parler en toute transparence et franchise. Le Québec aurait besoin de cette réforme-là parce que l'épisode du bipartisme, je pense qu'il est derrière nous, là. Il y a des partis, il y en a 5 en ce moment là, qui sont plus majoritaires. Mais cet épisode-là du Parti québécois, alternance Parti québécois, Parti libéral, je pense pas que ça va revenir complètement. Alors, si on veut passer dans la modernité, avoir une vie démocratique saine, bien, ça prend cette réforme-là.
Maïté, vous le disiez, vous êtes indépendante. Est-ce que vous avez l'intention de vous représenter à la prochaine élection? Je m'excuse si ça a été mentionné. Je l'ai loupé.
Oui. Mais je suis bien consciente qu'être indépendant, c'est difficile de se faire réélire dans un système comme on le connaît en ce moment.
Ouais.
Mais j'ai mentionné que je veux terminer mon mandat et que oui, j'ai envie de me représenter. Bon, il reste un an, je vais voir pour la suite.
OK, intéressant. Puis vous, de votre côté, M. Duhaime, bon, oui. Il y a eu l'élection partielle dans Arthabaska. Je ne vais pas vous poser la question si vous vous représentez, là, je pense que c'est assez clair. Mais on est tombé sur un article dans un journal local de Bellechasse.
Oups, votre ancien... que j'ai dit?
Pas vous,
okay.
Mais votre ancien candidat, oui. M. Tardy, disait « Ah, je ne suis pas sûr, je vais me représenter parce que c'est possible que je doive laisser ma place à un candidat d'envergure, à un gros nom. » Puis là, moi, je me suis dit, ben là, un gros nom, là, c'est Éric Duhaime. Est-ce que vous allez vous présenter dans Bellechasse en 2026?
Vous souriez, M. Duhaime?
J'ai pas encore décidé dans quelle circonscription j'allais me présenter. C'est sûr, comme vous venez de le dire, je vais me présenter à la prochaine élection. Je pense que ça fait doute dans l'esprit de personne. Mais la dernière fois, j'ai annoncé mes couleurs dans Chauveau très à l'avance, puis mes adversaires ont dépensé énormément d'argent en subventions de toutes sortes. Les organismes se faisaient tellement appeler qu'ils ne savaient plus quoi dire comme projet pour pouvoir avoir des fonds publics. Donc, plutôt que de me retrouver avec l'artillerie lourde, là, je vais essayer de les surprendre. Ça va être moi, ce coup-là, qui va être un peu plus snoreau qu'eux autres.
Je veux dire, Appalaches, ça semble intéressant pour le Parti conservateur, pour Éric Duhaime. On se cachera pas. Tu, parce que j'ai travaillé avec toi auparavant dans les médias, est aussi connu de tout ce qui est sphère médiatique, auditeur. Mais Chasse, on a lu entre les lignes, petit fantasme politique,
c'est
Lévis.
Quoi?
Qui est là à Lévis, Bernard, du côté de la CAQ? Bernard
notre ancien collègue Bernard Drainville.
Avec qui tu co-animais. Est-ce que ça, c'est une possibilité?
Ça serait un beau face-à-face, hein?
Assez intéressant pour y aller.
Triquet ici.
Il y a personne qui répond. Mais regardez, Pascal a dit Lévis, Anthony a dit Bellechasse, moi j'ai dit la Pelletrie pour aller remplacer Éric Kerr.
Ça, c'est Éric Kerr.
Donc, M. Duhaime, on voulait choisir.
Tabarnouche, j'ai le choix des cadeaux.
Et voilà, le choix des cadeaux.
Votre attaché de presse est derrière.
Madame Blanchet.
Il ne cherche pas de compter, lui, inquiétez-vous pas.
je terminerai cette très belle entrevue, puis merci beaucoup d'avoir été avec nous. Madame Blanchet de Vézina, je veux vous entendre sur la fameuse réforme forestière. Je veux pas oui. Ça a fait jaser hier avec la vision économique du premier ministre, c'est-à-dire lundi, où il a dit « Hey, écoutez bien, les emplois dans le bois d'œuvre, là, pas grave, on va les envoyer ailleurs. » Et là, ce matin, j'entendais à l'émission de Mario Dumont sur LCN, le maire de Latuc qui disait « Ouais, ben coudonc, on va vider ma ville, puis moi, j'aurais
totalement,
rien à dire. »
Exactement.
Vous en pensez quoi là, de
ben,
tout ça?
C'est l'équivalent de dire, pendant les feux de forêt, qu'on va laisser brûler Clova. Là, Mais je dirais que donc, c'est ça, 30 000 emplois, c'est majeur
ben,
pour
oui.
Une région.
Puis c'est pas vrai qu'on peut tout requalifier ces gens-là. Je pense aux travailleurs, puis là, je vais nommer un stéréotype, là, mais de 56 ans que ça fait 30 ans qu'ils travaillent dans le bois d'œuvre.
Ben non, mais il est dans une usine, il faudrait qu'ils se faire former pour aller. Je pense que la proposition, c'est d'aller construire des lignes d'hydro ou des éoliennes. C'est pas des vases communicants, puis le maire de là-dessus que a raison. Il va aller se faire former à Trois-Rivières. La personne va quitter les villages. Là. C'est pas là qu'il y a de la formation qui se donne à Saint-Michel-de-Squatec ou ailleurs au Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est ridicule, j'ai envie de vous dire. Puis c'est triste parce que ça me donne l'impression qu'abandonner ce secteur qui est important pour le Québec économiquement, là, c'est une part importante du PIB. Puis c'est des emplois qui sont payants dans les régions du Québec. Ça va vider les régions du Québec et de l'abandonner le secteur. Mais il y a des solutions sur la table. Moi, je sais, là, j'en ai travaillé. Il y avait du financement dans le budget, dans le dernier budget au mois de mars pour une stratégie industrielle pour le secteur forestier. Qu'en est-il de cette stratégie?
Oui, elle est...
Il n'y a pas de solution là, en ce moment. C'est 30 000 emplois, requalifiez-vous, allez travailler dans le nord, quelque part, dans les mines.
Avez-vous l'impression qu'on vous a éjecté du Conseil des ministres en même temps que votre réforme? Puis on a dit, on s'en occupe plus?
Ben je pense que ce n'était pas pertinent et prioritaire pour le premier ministre, puis on en a un très bel exemple aujourd'hui, malheureusement.
Si Maïté Blanchette Vézina est avec nous aujourd'hui, là, puis qu'elle a quitté la CAQ, c'est parce que le parti au pouvoir a abandonné les régions. Et c'est une autre démonstration de ce malheur-là, de penser qu'on va construire des barrages avec les 15 000 travailleurs ou 30 000 travailleurs qu'on va aller chercher dans l'industrie forestière. D'abord, ça se fait pas comme ça. Deuxièmement, un coup que le barrage est fait, il arrive quoi avec ce monde-là? Puis c'est dans la vision de François Legault là, de tout vouloir concentrer sur ses projets à lui, souvent publics, malheureusement. Et moi, je l'ai vécu dans le dossier aussi du gaz naturel. J'y en ai parlé au premier ministre. Le gaz naturel, là, vous l'avez promis, un autre engagement, une autre promesse rompue de la CAQ. Il m'a dit, bien, je peux pas parce que si on n'aura pas d'employés dans les régions pour aller travailler dans cette industrie-là, parce que j'ai besoin d'eux autres pour Hydro-Québec.
Donc, c'est ça son argument.
Mais sauf que pendant ce temps-là, il y a combien de milliers de travailleurs québécois qui sont partis puis qui aujourd'hui travaillent en Alberta sur les chantiers gaziers puis pétroliers? On a envoyé ces gens-là, on préfère les envoyer à 2-3 000 km dans une autre province que de les faire travailler dans des régions du Québec. C'est un manque de vision totale de la part du premier ministre.
Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, Maïté Blanchette-Vézina, députée indépendante de Rimouski, peut-être du Parti conservateur bientôt. Hein? On lui a posé la question, Pascal.
On n'a pas encore eu de réponse. On a eu une réponse politique.
On verra.
J'adore ça. C'est comme la réponse politique de M. Duhaime en ce qui est après, où est-ce qu'il va se présenter.
Non, merci de ramener à la merci de ramener à l'avant-plan le vote proportionnel. Je pense que ça ferait très bien notre démocratie de l'avoir. Alors, merci beaucoup de le faire. Et on vous souhaite une belle tournée médiatique parce que là...
on se le fait
Éric,
dire.
Éric, là, je me fais
quitter ça. Quittez. Okay.
Merci tout le monde. Bonne journée.
Merci. Salut. Merci tout le monde.
Yes. Pascal, qu'est-ce qu'on... Ouais, vas-y donc.
Je veux juste dire que dans l'entrevue avec Mme Blanchette-Vézina, il y a quand même une pointe directement pour laisser brûler Clovan. Alors, c'est intéressant. Peut-être que la grogne était bien installée depuis plus longtemps qu'on pensait auprès de François Legault par rapport à Maïté Blanchette-Vézina. Sur la route aussi, je dois signaler quelque chose qui s'est passé. Là. Congestion importante à l'arrêt, en fait, depuis 5 minutes au moins, sur la 20 ouest. C'est un peu plus loin d'ici, mais c'est un peu après le Madrid. Donc, 5 à 10 km sur environ 10 km où c'est une congestion complète. Alors, à l'arrêt, sur la 20 ouest, il y a des gens qui prennent la route. Sachez-le, mettez le GPS au pire la 40.
Est-ce que on a plusieurs textos qui sont rentrés durant l'entrevue? Bon, plusieurs gens qui sont en faveur, justement, du vote proportionnel, sans surprise. Il y a un autre auditeur qui dit, ben voyons, si Éric Duhaime avait des chances de rentrer au Parlement et de faire élire 30 députés, pensez-vous vraiment qu'il dirait ça aujourd'hui?
Et voilà, c'est le cynisme entourant cette question-là. Puis honnêtement, c'est comme décourageant parce que dès qu'ils se mettent à être avantagés par le système, ils changent d'idée.
Bien, la preuve, c'est le PQ présentement que je comprends pas trop. Pourtant, c'est dans les gènes, me semble, du PQ.
Ça a toujours été dans le programme. Hein?
Oui, de faire en sorte que le vote, justement, d'une personne ait un impact.
Bien, il y en a un, mais tu sais, aussi, à un moment donné, puis j'avais le goût de leur poser la question, puis je me suis un peu retenue, mais au lieu de mettre de l'énergie à changer de mode de scrutin, c'est noble. Mais à un moment donné, mettez de l'énergie peut-être à gagner selon les règles actuelles, parce que, je m'excuse, je suis cynique, mais... ça n'arrivera pas. Ça n'arrête pas de faire patate à chaque fois. Mais... là, j'avoue que le timing est quand même exceptionnel. On verra.
Sort tout ça, Antonine, de l'équation. Là. Est-ce que ce serait meilleur pour les électeurs?
Bien, en fait, l'idée que ton vote vale plus, je pense qu'on ne peut pas être contre ça. Puis c'est vrai que ça viendrait baisser un peu le vote stratégique et ça augmenterait un peu le vote de valeur, j'ai envie de dire. Parce que tu pourrais voter pour quelqu'un dans ta circonscription, mais voter pour un parti. Puis là, ça serait des candidats d'une liste, en tout cas, si c'était le même système qui était proposé par la CAQ il y a quelques années.
Bien, tu sais, si on prend, par exemple, s'il y avait eu le vote proportionnel en 2022, je vois quand même qu'il y a 10 députés du PCQ, ce qui est intéressant parce qu'il y a du monde à droite de l'échiquier politique au Québec. Et il y aurait eu 14 députés de QS au lieu de 11. Donc, c'est intéressant aussi parce qu'il y a du monde à gauche sur l'échiquier politique.
Ça avantage pas juste un bord. Ça,
c'est ça.
Sûr.
Donc, mais, moi, mais c'est ça ce que je trouve intéressant.
Les... je vais dire un gros mot, mais ça avantage un peu plus les extrêmes. Donc, on a vu, par exemple, dans des proportionnels purs, dans des systèmes qui sont rares, mais par exemple, en Israël, c'est comme ça, beaucoup plus de présence de partis qui sont plus marginaux. Dans l'équivalent de leur Assemblée nationale. Donc, ça voudrait dire, tu sais, en ce moment, on a comme toujours un peu des partis centristes. Puis c'est très stable. C'est vraiment la tradition anglaise. Il y a pas de... on n'est pas révolutionnaire, on est calme, il y a beaucoup de continuité. Donc, ça change un peu la culture politique de changer de mode de scrutin.
Oui. La preuve à ça, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a essayé justement d'amener Québec solidaire plus au centre. Parce qu'on le sait qu'il faut être au centre pour gagner. Ouais. Vous en pensez quoi? Puis je lis un dernier texto d'un auditeur sur le fait qu'il trouve qu'on entend un peu trop Éric Duhaime. Il est tanné de l'entendre parler de distorsion démocratique.
Parce qu'il y a des gens qui trouvent qu'ils se victimisent puis qu'ils chialent.
Je lui ai dit dans Marceau le matin, j'étais un de ceux qui a dit « Moi, Éric, j'ai pas embarqué dans ta campagne Arthabasca. » Je le répète au micro, je lui ai dit, fait que j'ai pas de joindre. J'ai pas embarqué dans ta campagne en Arthabasca de dire « Hey, il faut absolument qu'Arthabasca sauve la démocratie puis vienne justement régler cette distorsion démocratique-là. » Ça appartenait pas aux électeurs d'Arthabasca.
Ben, c'est un peu ça. Puis là, on est encore là-dedans à dire « Moi, si je gagne pas, c'est parce que les règles m'avantagent pas. » Fait que ça peut envoyer ce message-là. Cela dit, c'est un dossier qui dépasse de loin les intérêts personnels d'Éric Duhaime ou de Maïté Blanchette-Vézina. Ça fait des années. Puis je salue quand même Jean-Pierre Charbonneau parce qu'il lâche pas, là. Honnêtement.
Oh non!
Là, ça fait des années qu'il milite pour ça. Puis honnêtement, tu sais, c'est... Il y a eu beaucoup de revers. On est passé très, très proche. Pascal a échappé quelque chose.
Non, c'est parce que les techniciens viennent m'entourer d'ordinateurs, de pieds, de fils, puis je ne peux plus bouger.
Puis je le vois que ça t'a déstabilisé. Et là, le truc vient de tomber. La face que t'as faite, là. Je peux pas m'empêcher de rire.
Moi, je faisais comme si de rien n'était, mais Jeff n'a pas été capable.
Non, je n'ai pas été capable. Je vous l'ai dit, je suis un peu énervé aujourd'hui.
Je suis dans une cage.
Alors, tout ça pour dire merci aux auditeurs. Très beau texto qu'on a reçu, Pascal, Jeff et Antonine. Merveilleuse émission, équipe de feu. Ben merci. On l'a fait pour vous, cette émission-là, puis on souhaite vraiment vous intéresser au monde politique et à l'actualité. Donc, quand vous nous écrivez des beaux messages comme ça, on se dit que c'est mission accomplie. Pascal, on va te laisser reprendre tes sens. On va faire des manchettes après la pause, puis après tes manchettes, ça va être Lambert Drainville qui va s'installer avec nous. Évidemment, Lambert veut nous reparler de tout ce sondage-là, puis la CAQ, puis François Legault, mais il veut aussi nous parler de... des médecins qui gagnent dans l'opinion publique contre la CAQ à l'heure actuelle. Et de beaucoup. Donc, est-ce qu'on s'est trompé finalement avec cette fameuse loi 2 matraque? Moi, je me souviens, c'est une Pascal Cévé qui avait dit « Pas sûr, c'est un bon coup politique. Hein? » Ben, mais c'était pas trompé, d'après moi, un Pascal Cévé.
J'aime ça réfléchir à des affaires que personne ne veut m'entendre.
Tu me levais le doigt, t'avais-tu quelque chose à dire?
Puis j'ai une belle confirmation que je vais annoncer tout de suite, si tu me permets, parce que c'est entré pendant qu'on faisait notre, notre conférence de presse. Ça va, madame?
Ben, ça avait l'air d'une
conférence.
Ouais, mais ça avait l'air d'une conférence de presse.
C'était comme une grande assemblée, là, je sais pas.
C'est vrai, on était autour d'une grande table ronde.
C'était vraiment plaisant. Mais on avait invité des gens du politique à venir au combat de boss et pendant qu'on a au combat de lutte et pendant qu'on a je suis vraiment désolée, moi tout me tombe sur la tête. On a un combat de lutte le 21 novembre.
Oui.
Un gala.
Oui.
On est vraiment content de le faire parce que c'est le profit de la bouchée généreuse.
En plein ça.
Il y a Yann Marceau qui affronte, entre autres, Virginie Gagnon de TVA. Antonine est une des coachs qui va avoir fort probablement à sortir un peu de caractère et on adore ça dans les rings. Et on avait invité des gens à venir encourager, à venir participer, puis c'est fait. En fait, pour ce qui en est du parti de Bruno Marchand ici à la mairie de Québec, on peut confirmer qu'il y a 4 élus qui vont être au gala de lutte le 21 novembre prochain. Hélénie dans Saint-Roch-Saint-Sauveur, Raymond dans Limoilou sera là, Marie-Lou dans Mézeray et Clément dans Vanier. Alors, la ville de Québec se mobilise. On invite le parti de Stéphane Lachance à se mobiliser aussi et ceux qui ont envie de venir, de mettre un petit 20$ qui s'en va directement à la bouchée généreuse.
Mais là, on va garder Respect Citoyen Québec Fort et Fier dans le ring de l'Hôtel de Ville. On les amènera pas dans le ring.
Non, faut pas qu'ils se battent là, sur place.
Non, c'est
là.
Ça. Non. Justin, c'est déjà battu contre Brazo là, à la boxe.
Ouais, c'est pas vrai. Notre but. Sinon, on va garder des portes très, très près. On va mettre ça près d'Antonine s'il se passe une chicane, quoi que ce
Moi,
soit.
Moi, je voudrais être tout rassouillé.
Justin a fait plein de choses en politique qu'on n'aurait jamais cru qu'il pourrait être fait. Bon, parenthèse Justin Trudeau fermée. Sinon, je vais me faire taxer d'être un Pierre Poilievre de moi-même. On fait une courte pause à Boulevard 101. Vous êtes à l'émission d'En Jase. Lambert Drainville et l'essentiel de l'actualité s'installent après cette courte pause sur les ondes de Boulevard.